Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de Soir Info de 22h30 à minuit sans aucune interruption pour décrypter tout ce qui a fait l'actualité de ce mardi. Elisabeth Lévy est parmi nous ce soir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. La une de Causeur, tiens, on va la montrer. Il est sorti quand
hein? Il est sorti il y a une semaine.
Il est sorti il y a une semaine. Dernière chance avant la charia. Ben, vous envoyez... Hein,
comme on dit. Et vous voilà. me direz un jour, vous aviez tellement raison.
Écoutez, on verra, l'avenir le dira. Arthur de Vatrigan, bonjour à vous. Vous, bonjour. C'est l'incorrect que je me permets de présenter également. Le voici. Qui es-tu, Jordan Bardella? Interview donc du président du RN, candidat tête de liste pour les Européennes.
On essaie de challenger un peu.
Dans l'incorrect. Merci Arthur d'être parmi nous ce soir. Amaury Bucaud pour les questions de police-justice. Et on parlera antisémitisme et un nouvel influenceur jugé. Enfin... qui a comparu aujourd'hui devant le tribunal et on verra que le jugement n'a pas été rendu et vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure encore...
Non, et l'affaire surtout en tant que telle qui est
quand même assez... Oui, l'affaire qui est énorme et qui est insupportable dans le contexte que l'on connaît. Maître Laure Alice Bouvier, bonsoir et merci d'être présente ce soir. Je vais me permettre de tourner la tête parce que je vois Nathan Devers qui arrive également, qui va nous rejoindre en plateau. Merci d'être présente donc. Merci à Philippe Guibert d'être là, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Entrez. Faites votre entrée, c'est le moment de profiter de la lumière. Nathan Devers, bonsoir à vous,
Julien.
Écrivain.
Je ne savais pas que vous étiez en avance.
Je ne suis pas en avance, on prend l'heure comme tous les soirs. Mais écoutez, on synchronisera nos montres la semaine prochaine si vous le voulez bien. Merci en tout cas Nathan d'être présent. Merci à tous les six. Donc beaucoup d'actualités ce soir. On parlera bien sûr de ces nouveaux blocages à Sciences Po, de cet antisémitisme grandissant dans notre pays et pas seulement, des images très émouvantes aussi, des obsèques du jeune Matisse, cet hommage poignant qui avait lieu aujourd'hui à Châteauroux. Je voulais qu'on parle un petit peu international, actu international d'abord, puisque à midi, heure de Moscou, aujourd'hui, les cloches du Kremlin ont sonné le début de la cérémonie. Vladimir Poutine a officiellement prêté serment pour un cinquième mandat, 6 nouvelles années à la tête de la Russie. Le président russe a monté les fameuses 66 marches qui mènent au salon Saint-Georges. Il a prêté serment dans un décor fastueux. En même temps, il en a l'habitude. C'est la cinquième fois de suite. C'est la cinquième fois. Le maître du Kremlin qui a ensuite prononcé un discours dans lequel il s'est adressé aux Occidentaux, à la France, et également dénonçant une politique d'agression contre la Russie. Retour sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc Camille Guédon.
La tension monte entre Vladimir Poutine et l'Occident. Lors de son discours d'investiture qui marque le début de son cinquième mandat, le président russe en a profité pour faire passer un message aux pays occidentaux. Et plus précisément à Emmanuel Macron, qui a évoqué l'envoi de troupes au sol en Ukraine en février dernier.
Nous ne renonçons pas au dialogue avec les pays occidentaux. C'est à eux de choisir s'ils préfèrent contenir le développement de la Russie et mener une politique d'agression et de pression sur notre pays comme ils l'ont fait pendant des années, ou bien chercher la coopération et la paix.
Lundi déjà, Moscou a menacé d'effectuer des exercices nucléaires près de l'Ukraine ainsi que des frappes sur des cibles britanniques situées en Ukraine. Le ministère de la Défense russe a assuré que cela répondait à des menaces proférées par des dirigeants occidentaux contre la Russie. La semaine dernière, dans une interview accordée à un journal britannique, Emmanuel Macron avait réitéré ses propos concernant l'envoi de troupes au sol en Ukraine.
Comme je l'ai dit, je n'exclus rien, parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Nous avons sans doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur.
De son côté, le porte-parole du Kremlin a pointé du doigt le président de la République, qui, selon lui, a une rhétorique très dangereuse.
Elisabeth Lévy, un premier commentaire, je vois que ça vous réjouit. Vladimir Poutine. Non, mais si vous voulez, je commence par quelqu'un d'autre. Vladimir Poutine, 6 ans de plus au pouvoir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il montre de nouveau les muscles face à l'Occident. Beaucoup d'intox, peut-être. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de son côté, surfe aussi un peu sur le danger en répétant que cet envoi de troupes au sol n'est pas...
Il y a un jeu, forcément, je ne sais pas, vous vous rappelez l'histoire de la crise de Cuba. Il y a un jeu de poker menteur, si vous voulez. C'est évidemment si vous voulez, que
là,
chacun
monte.
Mais
on joue n'importe quoi, on joue avec la guerre. Hein.
Oui, mais si vous voulez, la... en fait, moi je suis plutôt de nature optimiste. Je pense que, effectivement, la dissuasion nucléaire est faite pour ne pas servir. Elle est faite pour servir, effectivement, de menace. Par ailleurs, Poutine, si vous voulez, on connaît le fonctionnement des dictateurs, c'est tout à fait conforme à leur façon d'agir, de monter aux extrêmes. Son intronisation, en revanche, c'est un peu un non-événement. Ça montre simplement que quoi.
C'est évidemment le discours qu'on analyse ce soir, cette intronisation qui était attendue et qui.
Oui, et surtout, je me rappelle, au début de la guerre, des gens se disaient son régime est très fragile, il va s'effondrer, etc. La seule chose, je crois, qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus.
La Russie devait être mise à genoux, rappelez-vous.
Mais par ailleurs, je ne suis pas non plus, je finis. Je suis toujours un peu gênée par tous ceux qui s'énervent dès que Emmanuel Macron prononce un mot à ce sujet, parce que c'est inspiré par la peur de la Russie. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas fâcher les Russes. L'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre, me semble quand même toujours d'actualité. Donc je ne suis pas du côté de ceux qui condamnent tout le temps Emmanuel Macron.
Ben, alors, c'est quand même.
Enfin, et j'obtiens ainsi l'approbation de Philippe Guibert et Nathan Devers. Alors là, je suis.
Bah, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Elisabeth. Hein. Moi, je trouve ça assez révoltant, cette légèreté de dirigeants qui menacent à coups d'armes nucléaires, qui mettent sur la table enfin, des jeunes hommes, des jeunes femmes françaises ou français qui restent faire massacrer au combat pour l'Ukraine. Alors, Maître Bouvier, Philippe Guibert, tout le monde va dire un mot de toute façon.
Oui, alors moi ce que je trouve très très étonnant, c'est que le haut représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères avait quand même annoncé qu'il ne fallait pas y aller. La Pologne, l'Allemagne, je crois qu'il y avait aussi la République tchèque, ont annoncé qu'il n'y pas, et la France a envoyé quand même un ambassadeur. Alors c'est quand même très étonnant parce qu'on dit que Poutine est un dictateur.
Ah, vous parlez de l'investiture, hein, où aucun pays occidentaux quasiment n'était représenté, sauf la France, c'est vrai.
Sauf la France qui y est allée. Enfin, c'est quand même assez ubuesque parce que ça veut dire qu'ils vont à l'intronisation d'une personne qu'ils considèrent comme un dictateur, et qui en est un par ailleurs, qu'ils menacent d'envoyer.
Je vous rappelle que Xi Jinping est à l'Élysée depuis deux jours.
Oui, hein, mais quand même, aller à l'investiture, ça veut donc dire qu'il valide ce fait-là. Par ailleurs, sur la question de la menace nucléaire, alors je rejoins tout à fait Elisabeth sur le fait que la menace, c'est un drapeau qui s'agite aussi pour faire peur. Après, j'avoue que là, cette fois-ci, je me pose un peu la question parce que lorsqu'ils ont attaqué l'Ukraine, ils ont fait la même chose juste avant. C'est-à-dire qu'ils ont placé des armes tactiques, nucléaires tactiques, juste avant aux frontières de l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est pour la dissuasion? Certainement, comme vous l'avez très bien dit. Mais bon, à voir également.
Arthur de Vatrigan, dans cette escalade verbale entre l'Occident et la Russie, est-ce qu'Emmanuel Macron joue avec le feu? Est-ce qu'il n'essaie pas de se trouver un rôle à travers une forme d'intro? Comment?
Vous l'arrachez.
Je fais des allers-retours entre les deux de côté de la table. Est-ce qu'il veut consolider une Europe qui serait fédérale, qui serait guerrière?
Qui veut consolider une Europe fédérale, oui, mais je ne suis pas forcément en lien avec la Russie de Poutine. Sur la diplomatie, moi, ça ne me choque pas qu'on envoie un ambassadeur à l'intronisation d'un dictateur, parce que sinon, nos ambassadeurs parleraient avec pas la moitié de la planète. Et le principe d'un ambassadeur, c'est surtout de parler avec ses ennemis plutôt qu'avec ses amis. Ses amis, on passe un coup de fil, c'est réglé. Les ennemis, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est ce à quoi sert la diplomatie, c'est justement empêcher la guerre. Et on empêche la guerre en discutant avec nos ennemis qui sont a priori des dictateurs. Mais donc c'est pas, ça me choque pas.
Enfin, ensuite, on empêche pas vraiment la guerre en menaçant en même temps. Ils menacent tous les deux jours, donc c'est quand même un peu bizarre. Quoi,
encore une fois, il y a la communication, on parle, on menace, et puis il y a la diplomatie. Là, ça se passe
dans la coulisse.
Bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas.
J'espère qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
C'est certain qu'il y a des choses qu'on ne sait pas.
Ça sera un peu inquiétant.
Mais bon, après sur les menaces, que je suis s'interroge.
Après sur les menaces, Vladimir Poutine parle de menaces nucléaires au jour de son intronisation et trois jours avant la célébration de la victoire de 45, c'est pas étonnant. Il va nous refaire le couplet de l'Ukraine néo-nazie parce que l'Allemagne nazie, bon, tout le monde joue avec ça. Emmanuel Macron joue aussi avec ça. Et plus il menace.
Mais ça vous révolte pas de jouer avec ça? Justement, vous utilisez ce mot.
Malheureusement, on parle de grands jeux, depuis Kipling, on parle de jeux politiques. C'est-à-dire, c'est dans le terme, c'est dedans. Et plus Poutine parle, plus ça me rassure. Le jour où il parlera plus, je serai plus inquiet. Je vous avoue. Après, pour les menaces de Macron, le problème, c'est que pour faire des menaces, il faut être pris au sérieux. Et malheureusement, on n'a pas les moyens d'envoyer. En tout cas, si on envoie des soldats français en Russie, au camp d'Ukraine, Le problème, c'est qu'on a, nous, on sacrifie pas des hommes comme la Russie s'est sacrifié des hommes depuis des décennies et des siècles.
Et puis on a en tout 90 000 hommes.
Donc quand on menace, il faut le faire sérieusement. Et malheureusement, on n'est pas pris au sérieux, surtout qu'à chaque fois que Emmanuel Macron parle de ça, il se fait retoquer aussi par une partie de ses alliés. Donc il faudrait un peu se coordonner.
Philippe Guibert, est-ce qu'on pousse à la guerre pour ne pas perdre la face, qui serait complètement fou?
D'abord, c'est le mécanisme de pouvoir de Vladimir Poutine, d'être toujours dans cette vraie fausse paranoïa, où je suis menacé par l'Europe, les Américains.
C'est la surenchère du président Macron, moi, qui me trouve.
Alors, j'y viens. Mais je trouve qu'on renverse un peu trop les rôles. Parce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit, au fond, si on réfléchit bien.
Qui n'exclut pas l'envoi de troupes.
On n'exclut pas.
Il a dit, si Vladimir Poutine prend un avantage décisif sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il risque de prendre le contrôle de l'Ukraine,
c'est loin d'être possible.
Si les Ukrainiens font appel à nous, nous ne pourrons pas nous dérober. C'est ça qu'il dit. Et la vérité est que cette question ne se posera pas qu'à la France, elle se posera tout autant aux autres pays européens. Donc c'est une question qui n'est pas une question de fiction et juste un jeu. C'est une question qui est possible, en particulier si le soutien américain venait à diminuer, par exemple, après l'élection de Donald Trump. Donc c'est une question à un an. Un an et demi, peut-être même avant. Et Poutine, lui, vit dans cette paranoïa guerrière, c'est-à-dire qu'il prend toujours appui sur des moitiés de déclarations ou des déclarations qu'il retourne de dirigeants occidentaux pour dire, voyez comme il nous menace. Si vous lisez le match du Kremlin... Non, lui récupérera. De toute façon, même si on disait rien, il en trouverait quand même des déclarations. La paranoïa est un mode de fonctionnement du régime poutinien. Il joue sur un ressort historique de la Russie qui a le peuple russe a cette paranoïa historique
d'être encerclé.
Le sentiment d'être encerclé par l'Occident. Ouais. Et Poutine en joue. Empoli explique ça très bien dans le match du Kremlin. Le nerf du pouvoir de Poutine, c'est la guerre. Ça a commencé par la Tchétchénie et aujourd'hui, c'est l'Ukraine.
Nathan Devers.
Demain, on ne sait pas.
Oui, alors j'aurais un micro désaccord avec vous, mais vraiment un micro. C'est que je pense qu'il y a dans le... Enfin, qu'il ne faut pas essentialiser le peuple russe, évidemment, mais qu'il y a aussi une grandeur presque anhistorique du peuple russe qui ne se réduit pas à cette paranoïa et qui a d'ailleurs dans son histoire... Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que Français, on peut avoir une peine folle dans la situation qui est la nôtre. C'est que c'est vrai que historiquement, le peuple français a très longtemps, et j'espère qu'il le sera demain, était un très grand ami sur tous les plans, mais notamment sur le plan culturel, du peuple russe, qui est un grand peuple et qui souffre énormément.
Il ne s'agit pas d'opposer deux peuples, là ce sont deux dirigeants.
Bien sûr, maintenant, à l'exception de ce micro-désaccord, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, le restant de vos analyses, sur le fait qu'on peut reconnaître une qualité à Vladimir Poutine, c'est que c'est un homme extrêmement intelligent, et qui a parfaitement identifié toutes les failles de l'Occident, Europe plus Amérique, notamment sur le plan géopolitique. Et que si on revient sur ce qui s'est passé depuis 20 ans, ce qui a permis à la Russie systématiquement d'avancer dans sa politique fasciste de la guerre, fasciste c'est-à-dire extension d'un empire, extension illimitée d'un empire, c'est systématiquement la faiblesse de l'Occident. On l'a vu de manière criante en Syrie, quand Barack Obama, fixant des lignes rouges face à Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine dépassait ces mêmes lignes rouges, Barack Obama recule pour des raisons de politique aérienne. Et face à cela, je pense que la seule solution, et je ne dis pas ça pour défendre Emmanuel Macron, mais parce qu'il me semble que vraiment, c'est vraiment ça repose sur un diagnostic lucide, c'est de montrer à Vladimir Poutine que ce qui a été valable pendant 20 ans en Géorgie, en Syrie, en Afrique, l'influence française a disparu en Afrique à cause de Vladimir Poutine, ça ne le sera pas en Ukraine, parce que précisément, il s'agira de montrer les muscles de la part de l'Europe.
Je voudrais que vous entendiez cet extrait du général Bruno Clermont, justement, en matière de lignes rouges. Quelles seraient ces lignes rouges qui pourraient mettre le feu aux poudres? Écoutez son analyse.
Alors, le risque d'escalade en Ukraine, il est permanent et il est lié à deux lignes rouges. Les deux lignes rouges, j'en ai évoqué la première, c'est le fait que ça serait l'entrée directe de soldats de l'OTAN dans les combats aux côtés des Ukrainiens. C'est la première ligne rouge. C'est la raison de la réaction à l'agitation du chiffon rouge nucléaire. Et la deuxième ligne rouge, c'est le fait qu'il y a une espèce d'accord non écrit entre Russes et Américains sur le fait que tous les armements occidentaux qui sont livrés à l'Ukraine ne doivent pas être utilisés pour frapper le sol de la Russie. Ils doivent être utilisés à l'intérieur des frontières de l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de se défendre et repousser les forces russes en Ukraine. Et ça, cette ligne rouge, David Cameron, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, vient de la violer puisqu'il a déclaré il y a trois jours, que c'était aux Ukrainiens de décider l'usage des armements qui leur étaient livrés.
Je rappelle que la doctrine nucléaire russe prévoit un recours strictement défensif à l'arme atomique en cas d'attaque de la Russie avec des armes de destruction massive ou en cas d'agression avec des armes conventionnelles menaçant l'existence même de l'État.
Donc,
l'envoi de troupes françaises en Ukraine entrerait dans ce cadre.
Non, le principe de la dissuasion, c'est que vous dites attention, si tu me détruis, je te détruis, et que, si vous voulez, personne n'a envie de jouer sa propre destruction. C'est ça l'idée. On continue quand même, il faut parier, malgré la paranoïa que Philippe a décrite, il faut quand même parier sur la rationalité de Poutine. Je ne crois pas que ce soit un fou, pas plus que les mollets iraniens ou les autres. Ce sont des acteurs rationnels. Ils n'ont pas la... Si, ce sont des acteurs rationnels, ils ont des objectifs. La question, moi, je voudrais juste poser deux questions. La première,
à qui ?
C'est puisque l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, dire qu'un risque de défaite de l'Ukraine pourrait entraîner notre participation, ça signifie que nos intérêts vitaux sont menacés. Ça veut donc dire, et ça doit être explicité. Parce que ça repose sur l'idée d'un scénario, ce que tu as dit tout à l'heure. Après l'Ukraine, ce sera qui ? C'est ça l'idée. Mais en tous les cas, Absolument. Je trouve qu'on ne peut pas dire aux Français...
Est-ce qu'il y aura forcément quelqu'un après l'Ukraine ?
Attendez, on ne peut...
On agit de ça depuis deux ans.
Je vous dis juste, c'est ça le pari. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis ça demande à être explicité. On ne peut pas dire aux Français, risque d'aller se battre en Ukraine sans leur dire en quoi les intérêts vitaux de la France sont menacés, sachant que l'article 5... De l'OTAN
permet à tous les membres de l'OTAN de réagir en cas d'attaque d'un de ses membres.
L'autre question qui se pose en réalité, je trouve que c'est Arthur qui l'a dit, Emmanuel Macron a sévèrement augmenté le budget de la défense. Il ne faut pas minimiser réellement. On a commencé à fabriquer, je crois, des obus d'artillerie ou en France. Il a dû aller inaugurer une usine.
Si une guerre de longue haleine commence demain, on n'est pas prêt.
Maintenant, la question qui se pose, en plus, il y a la Chine, il y a nos possessions dans le Pacifique. L'armée française est-elle en état, outre la défense du territoire, de s'exporter en Ukraine ?
Mais elle ne le fera jamais seule.
Bon, écoutez, on verra en tout cas.
Il y a les seuls.
L'escalade verbale, elle, se poursuit. Et la suite, j'ai envie de dire, au prochain épisode guerre à distance.
Vous aurez le grand discours du 9 mai.
Ben voilà.
La grande victoire.
Dans 48 heures, on réentendra Vladimir Poutine menacer l'Occident et la France. Retour ici, justement, en France. Qu'est-ce qui est tombé par terre, là ?
Un stylo d'Arthur.
C'est votre stylo ? Bon, je vais envoyer quelques extraits sonores et vous pourrez aller le récupérer. Je voudrais juste d'abord rappeler qu'il y a eu de nouveaux jours de blocage. Aujourd'hui, un nouveau jour de blocage et de manifestation pro-palestinienne devant l'école de Sciences Po, des poubelles, du mobilier urbain, des vélos obstrués ce matin à l'entrée des locaux de l'IEP, alors que les étudiants passaient en partie leurs examens. Les forces de l'ordre qui ont dû évacuer l'entrée ce matin en procédant à deux interpellations. Cet après-midi, rebelote, un mouvement un peu plus important avec un peu plus d'une centaine d'individus, de militants s'est reformé. Journée très mouvementée donc jusqu'à la fin d'après-midi. Écoutez d'abord quelques étudiants, bloqueurs, manifestants.
Nous, les étudiants, on va bien. À Paris, on va bien. Les étudiants en Amérique, ils vont bien. Nous, par contre, les Palestiniens ne vont pas bien. Eux, ils ne peuvent pas passer d'examen. Ils passent des examens dans des tentes et là, actuellement, ils se font bombarder. Il y a une invasion imminente à Rafah.
On est arrivé pour passer un partiel et on a vu la police, des étudiants qui ont une cause juste et la police qui les déloge violemment. L'institution qui aide la police, qui n'entend pas ses étudiants, qui n'entend pas la cause pour laquelle on milite. Et voilà l'état dans lequel on passe les partiels.
C'est une répression main dans la main entre Sciences Po et la police. Ça montre que Macron s'entend très bien avec l'administration de Sciences Po pour réprimer un mouvement qui pourtant est pacifiste, qui pourtant est non violent.
Arthur de Vatrigan, droit de manifester, oui, bien sûr. Droit de bordéliser, non.
Non, bon après c'est pas nouveau, ils le font à chaque fois. Là on va pas découvrir que les étudiants font des blocages, que les lycées.
Et je dis droit de manifester, c'est manifestation non autorisée, hein, puisque non.
Oui, bien sûr. Après, le problème c'est que depuis l'accord, espèce de règle tacite depuis 68 que la police n'a pas le droit d'entrer dans l'université. Ça joue aussi là-dessus. Mais là, on ne va pas découvrir que des étudiants et ensuite, généralement, les lycéens, surtout quand les beaux jours arrivent et que le printemps débarque, commencent à bloquer, font des manifestations. Ils le font à chaque fois pour n'importe quelle réforme. Là, on a quelque chose qui est différent. C'est ils le font pour une raison qui ne concerne pas la France directement.
Et à laquelle ils comprennent rien.
On ne va pas leur mettre comprendre, évidemment.
Alors, on les caricature un peu. Mais
Vous voyez les réponses.
Ah oui, ce qu'on a entendu. Ce qui est problème, c'est que c'est difficile de mettre tout le monde dans le même sac parce que certains défendent un peuple qui est exsangue. Comment ?
quand on a les témoignages de, très souvent de Mathilde Panot qui ne sait pas de quel fleuve, je rappelle que river ça ne veut pas dire rivière comme on l'entend, mais fleuve.
Quand même, non mais ils ont des opinions. Je pense
je finis pour l'expliquer. Ils ne connaissent pas la situation du conflit. Vous leur demandez ce que c'est 48, ils ne savent pas ce que c'est 67, ils ne savent pas du fleuve à la mer, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas que tout a commencé par le refus par les Arabes du plan de partage de l'ONU en 49. En 47, pardon, si vous voulez, ça commence comme ça. Il parle des résolutions de l'ONU, celle-là, il l'oublie. Donc, ils ne savent rien sur ce conflit compliqué qui mélange beaucoup de choses et ils ne connaissent rien à l'histoire.
Je pense que l'argument n'est pas là. Parce que si on prend, par exemple, les gens en France qui défendent l'Ukraine contre la Russie, je pense objectivement que si on leur faisait passer un test sur l'histoire de l'Ukraine, ils ne mettraient pas une bonne réponse, même si c'était un QCM, il mettrait pas forcément une bonne réponse dans le questionnaire. Le fait qu'il y ait des étudiants qui connaissent pas les enjeux du conflit, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais à mon avis, c'est pas ça ce qui les disqualifie. Ils ont raison, il faut d'abord le dire, ils ont raison de venir exprimer une indignation qui est légitime.
Être pro-palestinien, c'est une chose, être anti-Israël, c'est une autre.
Être pro-palestinien, c'est salutaire. Être indigné de la mort des civils à Gaza, c'est salutaire.
Vous avez pas entendu, c'est indigné du tout.
Inquiet.
Un étudiant juif dans ce moment, viscéralement, ne pas tolérer un drapeau israélien.
C'est vraiment la fin de ma phrase. Être viscéralement inquiet pour le sort des civils de Gaza, je pense que c'est notre sort à toutes et à tous autour du plateau. Ce qui pose problème, ce sont leurs revendications. À mon avis, ce n'est pas leur degré de connaissance. Et leurs revendications, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est premièrement, remarquer que quand, par exemple, ils demandent l'arrêt des partenariats avec les universités israéliennes, en fait, si vraiment ils soutenaient la Palestine, ils ne demanderaient pas ça. Et que là, évidemment, ils rentrent parce que les universités sont un lieu majeur du contre-pouvoir en Israël. Et que là, ils rentrent dans une forme de haine ontologique vis-à-vis d'Israël et donc de ce que représente Israël, à savoir l'État des Juifs. Et deuxièmement, que évidemment, et ça, à mon avis, c'est ça le principal, c'est qu'on ne les voit pas tellement se mobiliser pour les Ouïghours, pour les Syriens il y a quelques années.
Déjà parlé ensemble, Nathan. On a eu cette même discussion la semaine dernière. Et vous savez comme moi pourquoi ils ne se mobilisent pas autour de des conflits que vous venez d'énumérer.
Parce qu'il n'y a pas de juifs au centre. Je trouve que vous balayez l'argument de la connaissance. C'est-à-dire que si on admet, dans les années 70, vous aviez des gauchistes, ils lisaient des livres, ils connaissaient des choses. Au Parti communiste, vous aviez des gens qui lisaient. Dans les groupements, la Ligue communiste révolutionnaire, moi, j'ai eu plein de copains qui étaient passés par la Ligue. C'était des militants, si vous voulez, qui s'intéressaient aux choses. Qu'on en soit dans un monde où des gens vivent sur des slogans avec quelques images, ils ont décidé qu'il y avait méchants juifs. Comment je suis désolée.
Il y en a qui disent quand même.
Oui, il y en a.
C'est un peu réducteur.
Il y en a, mais pardon.
On réduit à l'ignorance.
Pardon, le taux de. Excusez-moi, vous ne vous rendez pas compte.
Il y a des accords.
Non, il y a aussi beaucoup d'ignorance.
Ils minent les Américains, si vous regardez dans tout ce qu'ils disent, ils pompent sur les Américains.
Un peu dans l'esprit de Black Lives Matter, qu'on a importé de manière assez caricaturale dans notre société.
Quand ils font un town hall, en France, ça s'appelle une assemblée générale. Ils disent, on va faire un town hall, ça veut dire quoi? Ils reprennent les expressions. Mais après, on a vu dans la séquence où on a François-Xavier Bellamy.
Alors quand même justement, je vais y venir. Alors, je me permets de lancer la séquence et puis on poursuit le tour de table.
Pas de divulgation.
Au-delà. Non, ne divulgâchez pas. Pas un rassemblement autour de Sciences Po dans université sans qu'il y ait un député LFI qui vienne soutenir le mouvement et attirer forcément les caméras.
C'est ça le point important.
Une nouveauté aujourd'hui, c'est que le député européen LR, François-Xavier Bellamy, a eu le courage, il faut le saluer d'une certaine manière, de venir se mêler à cette mêlée et créer un face-à-face avec le député LFI, donc Louis Boyard. Ça a été assez tendu et vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez, regardez.
Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza ?
Aujourd'hui, à Gaza, il y a un drame humain absolu qui est causé d'abord et avant tout par le Hamas. Et ceux qui ne sont pas capables de dire ça ne sont pas...
C'est pas le Hamas qui balance des bombes. Et en fait, on n'en est même pas là.
Qui a déclenché ?
La question... Mais ça fait 75 ans que le conflit...
Qui retient des otages aujourd'hui ?
Ces étudiants, ils demandent la paix. Ces étudiants, ils demandent le cessez-le-feu. Et vous venez les insulter. Vous venez raconter n'importe quoi.
Il n'y aura pas de paix avec le Hamas. Il n'y aura pas de paix dans la violence. Et vous le savez très bien.
Mais le cessez-le-feu, il y a eu une proposition de cessez-le-feu qui a été faite. Ça a été démontré.
La France insoumise ici, c'est pas de l'opportunisme politique, peut-être. Diffuser les discours de Jean-Luc Mélenchon dans la rue Saint-Guillaume, c'est pas de l'opportunisme politique.
Il y a des étudiants qui ont été arrêtés ce matin. Donc forcément, on vient ici pour essayer de faire en sorte que ça se passe correctement.
Ça fait des semaines que vous êtes là. Ça fait des semaines. Des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur.
Et ça liste. Voilà, je le dis. C'est bon, je le dis. Je le dis. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous condamnez le fait? Est-ce que vous condamnez que 15 000 enfants?
Pas venu pour rien, voyez. Est-ce que un député de la France insoumise a reconnu que
est-ce que vous condamnez le fait que 15 000 enfants aient été tués par Israël?
Ces chiffres viennent d'où, Monsieur Boyard?
C'est Israël qui les bombarde. Voyez, vous êtes incapable de répondre à la question.
C'est très intéressant de voir François-Xavier Bellamy. Ouais.
Une révélation.
C'est une étoile aînée. C'est une naissance politique. J'ai l'impression que parce que pour moi c'était un techno très pointu.
Non, c'est pas un techno, c'est un
non mais je l'ai découvert aujourd'hui. Alors j'allais donner la parole de l'autre côté.
C'est une bouffée d'oxygène, franchement, vis-à-vis de toute cette extrême gauche qui effectivement parasite toutes ces universités, de voir qu'enfin quelqu'un à droite se bouge, arrive à parler avec
eux. Il a été hué, conspué, évidemment, il a été assez courageux.
Il a réussi à se faire entendre et à imposer ses arguments, mais ça fait vraiment du bien. On a l'impression qu'il y a toute une France silencieuse qui a été enfin entendue aujourd'hui et représentée médiatiquement au milieu de ce...
Il a raison, François-Xavier Bellamy, Laurence Bouvier, de venir comme ça se confronter à ces militants, au député Lou Boyard. On ne peut pas impunément prendre possession de la rue et c'est assez courageux, je le répète, d'être allé sur place.
Tout à fait, c'est très courageux. Alors, c'était peut-être pas le lieu pour le faire. Enfin, c'est encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de débat possible hors l'invective permanente. Simplement, moi, ce que je constate... C'est que 100 personnes, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas un mouvement, et c'est pas un mouvement étudiant. Un mouvement étudiant, c'est un mouvement de masse. Là, on a l'impression que ça s'essouffle. Louis Boyard, il vient là de Vianchon.
C'est une minorité qui fait beaucoup de bruit et qui empêche la majorité.
Parce que Louis Boyard vient parler de Vianchon Po et vient dire, oh là là, il vient faire en fait du barouf pour aller dire, bah regardez comme on est nombreux, alors qu'en réalité, on n'a pas de.
Mais il y a une telle démonstration de haine que forcément, ça doit nous alerter de voir ça.
Mais ce qu'il faut comprendre aussi. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Elisabeth, qui est très très juste. C'est que le problème.
Ne pas non plus.
C'est très juste. Merci, Laurent. Ce qu'elle a dit est très juste parce qu'il faut comprendre comment fonctionne Sciences Po. C'est-à-dire qu'au départ, Sciences Po, c'était une école qui formait à l'ENA. Après, quand on a eu Richard Descoings qui est arrivé, Richard Descoings a voulu en faire une université américaine. Ce qui fait qu'on leur a donné des cours de relations internationales, de marketing, des choses qui ne leur permettent pas de comprendre.
La direction de Sciences Po n'est pas
il y en avait à mon époque.
N'est pas exempt de tout reproche dans ce qui est en train de se passer. Personne ne dit le contraire, ça c'est sûr.
Bien sûr, et du coup, ce qui se passe, c'est que, Elisabeth a tout à fait raison, en réalité, ces étudiants se trouvent instrumentalisés par LFI parce qu'ils pensent bien faire. Ils n'ont pas l'idée que c'est. Ils pensent bien faire, mais en réalité.
Ils sont pas des victimes quand même.
Tiens, Philippe.
Ils sont instrumentalisés.
Je voudrais juste qu'on voit cette deuxième séquence. François-Xavier Bellamy, assez courageux face à Louis Boyard. On est dans la même veine. Je voudrais juste qu'on avance dans les éléments que je montre aux téléspectateurs. Cette fois, c'est face à une prof de Sciences Po. Et là, ça doit nous poser question également, parce que la frontière entre le militantisme et le professorat, normalement, doit être établie. Eh bien, a priori, ce n'est pas le cas. Regardez cet échange entre le député. Donc européen et cette prof.
Je suis descendante de colonisés, mes parents étaient colonisés, ils ont fait l'honneur de la France en venant la reconstruire après la Seconde Guerre mondiale et après la guerre d'Algérie. Et vous aujourd'hui, des gens comme mes parents, vous voudriez les exclure la société française. Vous avez pavé la voie pour l'extrême droite, monsieur. Vous ne me connaissez pas, monsieur.
Je ne tirerai pas de leçon de morale de vous, madame. Vous êtes professeur, moi aussi. Je ne suis pas venu là pour recevoir des leçons de morale.
À m'attaquer sur mon intégrité.
Mais pardon, vous venez de m'attaquer.
Je vous demande simplement,
madame, de baisser d'un ton. Je suis professeur, comme vous. Je ne suis pas là pour recevoir des leçons. Et je dis simplement... Mais alors là, c'est extraordinaire. Quand c'est vous qui parlez, c'est normal. Quand c'est moi qui parle, c'est illégal. Voilà.
Philippe Guibert, ces étudiants, ils se sentent autorisés de faire ce genre de choses pour les raisons qu'on a expliquées il y a un instant et aussi parce que leurs profs sont des militants et font la même chose qu'eux. Certains de leurs profs.
Oui, une généralité.
C'est pour ça que j'ai précisé.
Parce qu'il y a d'autres profs qui ont pris d'autres
positions. Vous avez raison.
Elle est au milieu des étudiants. Moi, ce qui me frappe beaucoup, je voulais poursuivre et prolonger ce que disait l'oraliste très justement. C'est un bide. Vous connaissez la rue Saint-Guillaume, Julien Pasquet?
Oui, enfin, je ne passe pas mes journées, mais...
Non, mais vous y êtes.
Je la situe, oui.
L'image que nous avons, j'imagine, en fond d'écran en ce moment... Quand vous connaissez la rue Saint-Guillaume, vous constatez qu'il y a quoi ? Il y a 200, 300 personnes maximum.
C'est rien.
De manière, c'est rien du tout par rapport à une école qui a des milliers d'étudiants.
Et si je puis me permettre, Michel, il y a aussi des étudiants de la Sorbonne qui étaient
oui, ils sont pas tous de Sciences Po.
Je suis un peu fatiguée.
Et des lycéens.
Et alors, je poursuis. Est-ce que vous avez trouvé que dans les lycées, dans d'autres universités, cette contagion, cette contestation entre guillemets pro-palestinienne, est-ce que vous avez constaté qu'elle gagne, qu'elle se répand, qu'elle devient irrésistible? Je ne crois pas.
Alors ça veut dire que ce que tente de faire LFI à Sciences Po est un échec dans cette volonté de d'apporter la contagion dans les quartiers, dans les lycées.
Je pense que cette opération Sciences Po est de A à Z une opération LFI.
Et une opération,
c'est une opération de com. C'est une opération de com des filles. D'ailleurs, tous les jours, il y a un député et les filles qui est rue Saint-Guillaume. Et je pense que cette opération est une pure opération politique.
Non, mais il n'y a pas que.
Il n'y a pas.
Mais bien sûr que si, il a raison.
Comparé à Berlin, à Londres, il n'y a pas eu de manif pro-palestinienne. On va les appeler comme ça pour ne pas être polémique. Qui soit absolument comparable à ce qui s'est... À Paris, c'est absolument pas comparable. La réalité, c'est que ce mouvement est ultra minoritaire, qu'il est piloté par LFI de A à Z, que ça leur permet d'occuper les médias et d'avoir une campagne électorale, alors que sur le fond, ils n'ont rien à dire.
Et le pire, je termine ma phrase...
C'est que ça marche un peu parce que LFI est en train de remonter un peu dans les sondages.
Mais... C'est surtout Raphaël Glucksmann qui en profite et qui talonne la candidate.
Est-ce qu'on peut contester ce que dit Philippe ?
Oui, vous pouvez contester, mais écoutez Clémence Guettet, la députée LFI, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui en met une couche.
Depuis une semaine, Julien, juste un mot. Depuis une semaine, depuis le début de la semaine, LFI est à 8,5, ils étaient à 6,5.
Ah mince !
C'est intéressant comme analyse.
Clémence Guettet, et on poursuit la discussion, écoutez.
C'était
déprimant.
Sur le climat en France, nous saluons quand même les mobilisations des étudiants avec de nombreuses universités, avec des écoles de journalisme où des étudiants sont mobilisés et avec les lycées qui lundi sont aussi entrés dans la mobilisation. Nous saluons cet engagement de la jeunesse et nous réaffirmons notre sidération parfois face à des évacuations qui sont violentes et à une répression extrêmement forte de ces mobilisations.
Oui.
Ouais, très vite, moi je suis pas tout à fait d'accord. Une partie me semble tout à fait juste. Il y a une opération LFI, qu'il n'y ait que ça dans les facs. Et je ne parle pas simplement des manifs bruyants. Récemment, j'ai été à Nanterre pour voir des étudiants juifs de l'UEJF, etc., pour voir comment ça se passait. Il y a 2-3 mois, c'était. Et franchement, si vous voulez, il n'y a pas besoin qu'il y ait des grands mouvements bruyants, médiatiques et LFI partout pour que, dans certains campus, des étudiants juifs se sentent en danger. Il y a une idéologie, malgré tout, si vous voulez, dans nos facs. Le wokisme n'est pas né le 6 octobre ou le 7 octobre dans les facs. Pardon, je sais que Nathan voulait ajouter.
Vous avez eu un blocage à Panthéon-Sorbonne. Hein. Vous avez l'amphi principal qui a été bloqué par des étudiants ce soir qui ont été délogés.
Juste une phrase. Quand on dit blocage, c'est combien de personnes? Je voudrais le savoir. Là, c'est
de la nuisance. Ce sont d'autres étudiants qui sont empêchés d'aller en cours ou d'aller passer leurs examens. Ce sont des étudiants juifs qui hésitent à deux fois avant d'aller en cours de peur d'être attrapés par 3-4 militants qui vont leur sauter dessus. Ces autres étudiants qui sont majoritaires.
200 personnes, c'est pas un succès.
Vous avez raison. Un dernier mot avant qu'on fasse un point actuel, on terminera la discussion.
D'accord avec Philippe sur l'analyse concernant la stratégie de la France insoumise. En revanche, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'il y a, notamment dans la jeunesse, une très très forte partie de la population qui ressent une immense indignation vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et surtout un immense sentiment de fraternité de destin. Le conflit israélo-palestinien dans l'histoire de l'Occident, dans l'histoire de France, n'a jamais laissé indifférent, a toujours exacerbé les sensibilités et ce depuis 50 ou 60 ans. À l'heure des réseaux sociaux où on suit les images en direct depuis le 7 octobre, des deux côtés d'ailleurs, je pense qu'il y a cette indignation et que le problème est la forme, la direction que lui impose la France insoumise et pas que la France insoumise. Mais à mon avis, même si les bloqueurs sont minoritaires, c'est quand même quelque chose de
très profond. On va poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux, c'est flagrant. Les amis, les 23h, on va marquer la minute actuelle avec Sandra Chilombo. On va entendre Sophia Aram également lors de la cérémonie des Molières. Sophia Aram, qui elle aussi a été très courageuse hier et qui a su apporter un discours sensé dans cette séquence qui parfois nous... nous demande si on fait société tous ensemble et on peut se poser de plus en plus la question, évidemment. Le Paris Saint-Germain a perdu ce soir. On n'ira pas en finale de Ligue des Champions. Sandra, quelle montre Pascal... les images. Sandra Chiombo.
Quelle surprise.
Bah, moi qui croyais que Pascal Praud était un prophète.
Les négociations en Égypte pourraient être la dernière chance pour Israël de récupérer les captifs vivants. C'est ce qu'un dirigeant du Hamas affirme. Au centre des discussions, le projet de cesser le feu dans la bande de Gaza. Les pourparlers se tiennent ce mardi soir en présence des délégations palestiniennes et israéliennes. Environ 2000 personnes ont rendu un dernier hommage à Matisse. La cérémonie s'est déroulée ce mardi au stade Gaston Petit de Châteauroux. L'adolescent de 15 ans était passionné de football. Pour rappel, il a été tué par un autre jeune homme du même âge le 27 avril dernier. Sur place, l'émotion reste intense. Et puis le Paris Saint-Germain a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus 1-0 par Dortmund au Parc des Princes ce soir. Ils avaient été défaits sur le même score au match aller. Les Allemands affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich en finale le 1er juin à Wembley.
Et on va aller au bout des images donc de cette... heureusement que j'ai demandé d'aller au bout des images. Ah merci les amis, voilà, pour voir ces occasions parisiennes en fin de match, notamment le cadre et la réussite qui a fui Kylian Mbappé et cette équipe du Paris Saint-Germain. Je l'avais pas vu celle-là, l'énorme barre de Vitinha également.
Tu peux avoir un pronostic pour autre chose, puisque c'est une défaite.
Non mais laissez-moi me remettre 10 secondes quand même de cette élimination, parce qu'on était quand même au cours de la finale. Ça
moi
fait,
je vous
ça
demande
fait mal,
un pronostic pour ce qui va se passer cette nuit. Est-ce que le fait que ce soit une défaite veut dire que ça va... Depuis 14h à Saint-Michel, il y a des policiers en masse. Depuis 14h, je leur ai demandé.
Il y a eu des petits échauffourées devant le Parc des Princes également ce soir.
Et donc, est-ce que ça annonce une nuit calme?
Non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Je vous poser, je peux ou pas? Non.
Mais non, mais arrêtez là, on peut mener. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je ne comprends pas quelque chose. Comment peut-on se mettre de mauvaise humeur pour le sport, sachant que vous n'y êtes pour rien dans cette défaite?
Et
vous vous mettez de mauvaise humeur pour un échec qui n'est pas le vôtre.
Alors, je vais rendre hommage à Paul Auster, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui a décrit le football de la meilleure façon possible. Le football est un miracle. Le football est un miracle, mon ami, parce qu'il a permis aux Européens de se détester sans se détruire. C'est une allégorie de la guerre. Donc forcément, il y a un sentiment d'appartenance qui est immense et on se sent tous concernés quand on aime le football et qu'on est, on a baigné dedans depuis petit par les matchs les plus importants.
Quand vous regardez un match de foot, vous vous dites c'est génial, c'est
bon,
la guerre.
Bon, et je suis pas sûr que les gens qui nous regardent aient envie de nous entendre deviser sur le Paris Saint-Germain.
Votre entraîneur qui est mort, l'entraîneur argentin Menotti, qui expliquait que le foot c'était l'opéra des pauvres. Peut-être que Elisabeth comprend mieux ça.
Ça me parle mieux ça.
Bon, on avance ou on fait. Moi, je veux bien faire une demi-heure sur le foot. Ça me dérange pas, j'adore ça. Je suis pas certain qu'on attire énormément de téléspectateurs. Poursuivons. On parle de cette. Vous m'avez troublé. Du coup, oui, dans les mobilisations autour de Sciences Po et des facs françaises. Dans ces mobilisations, oui, évidemment, on entend énormément parler de l'extrémisme de Benjamin Netanyahou. On entend assez peu parler de la barbarie des terroristes du Hamas. Ce silence continue de nous diviser, comme on le disait tout à l'heure, et comme l'a dit très courageusement, donc j'ai trouvé hier soir Sophia Aram lors de la cérémonie des Molières. Écoutez-la.
Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? De cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains.
Philippe, que fait une femme aussi brillante sur l'antenne de France Inter?
Je trouve qu'elle aura toute sa place sur notre chaîne.
J'ai choqué Nathan Devers. C'était eu un peu de l'ordre de la boutade, hein, Nathan. Pardon, Philippe.
Non, mais ce qui est bien, ce qui est très... Ce qui m'a, moi, le plus frappé dans cette affaire, elle le dit très bien, elle le fait très bien, Mais ce qu'elle dit, somme toute, n'a rien d'extraordinaire. Et ça fait événement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, on peut et on doit se préoccuper des Palestiniens.
C'est une évidence.
Mais comment ne pas se préoccuper aussi des Israéliens, des familles des victimes, des familles qui ont encore des otages ? Comment
on n'arrive pas à tous regarder des deux côtés comme elle le fait.
Et donc c'est relativement, enfin ce qu'elle dit, c'est très bien de le dire, mais ce qui est incroyable, c'est que ça soit surprenant que quelqu'un le dise dans ce milieu-là.
Non, vous avez 100 fois raison.
Parce que somme toute,
ce qu'elle dit...
Mais c'est un événement. Non, mais il l'a parfaitement décrit.
Dans ce milieu, vous avez raison.
On va avancer parce qu'on a une grosse affaire à vous montrer avec Amaury Bucco autour de l'antisémitisme. Deux commentaires rapides sur ce qu'a dit Sophie Aram hier soir. C'est vrai que, pourquoi on n'arrive pas à tous regarder dans le même sens, comme l'explique cette femme.
C'est vrai que c'est une évidence et on devrait dialoguer. D'ailleurs, les étudiants juifs de France, on avait proposé un dialogue avec les étudiants pro-palestiniens. Ils l'ont refusé, ce dialogue. On est dans un monde dans lequel on a encore une fois une bipolarité, dans lequel il y a une scission et on passe son temps à s'invectiver et on ne discute pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir que des deux côtés, les parties souffrent des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a des civils qui souffrent autant du côté palestinien que du côté israélien. Et le problème, c'est pas eux, c'est le problème, c'est les dirigeants en réalité.
Oui, enfin non, excusez-moi. Attends. Le problème, cher Loraliste, le problème, c'est pas les dirigeants. Si les Palestiniens souffrent, ce dont je suis absolument comme vous, ce qui est bouleversant, c'est à cause du Hamas.
Oui, à cause du Hamas, à cause des Palestiniens, des terroristes du Hamas, tout à fait.
Oui, mais je suis désolé, si vous voulez, soit vous dites qu'Israël n'a pas le droit de se défendre et doit laisser le Hamas l'attaquer, ce qui n'est pas le cas, personne ne pense cela, soit vous comprenez bien, après vous pouvez discuter de est-ce qu'ils doivent aller à Rafah, pas à Rafah, est-ce qu'ils doivent... Ça oui, mais la réalité, c'est que si des Palestiniens meurent aujourd'hui, si des enfants palestiniens meurent, c'est à cause de leurs dirigeants.
La réalité, c'est aussi... La réalité, c'est aussi qu'il faudrait un dialogue il faudrait un cessez-le-feu, il faudrait qu'on renvoie les otages, je pensais vraiment que ça allait aboutir,
la contre-proposition. Le Hamas apparemment n'est pas celle qu'attendait Israël.
Il ne faut pas importer. Et
le Hamas se moque
pays,
un petit peu de l'État hébreu, je pense aussi, dans ses négociations. Tout dernier mot, parce que je voudrais qu'on avance avec Amaury.
En effet, ça devrait être une évidence absolue de se dire qu'un bébé qui meurt, quel que soit le côté, ça suscite la même pitié. Pourquoi n'est-ce pas le cas ? Parce que dans le récit de ce conflit, depuis le 7 octobre particulièrement, il est analysé en France à travers trois paradigmes, qui sont trois paradigmes faux, et qui sont trois paradigmes qui sont destinés à casser la pitié. Le premier, c'est celui de la guerre de civilisation. Le deuxième, c'est celui de la guerre de religion. Et le troisième, c'est celui de la guerre coloniale. Coloniale versus décoloniale. Et dans les trois cas, si vous adoptez cette version des choses, si vous vous sentez engagé dans une guerre de religion, dans une guerre de civilisation, ou dans une guerre coloniale-anticoloniale, en effet, vous avez un paradigme qui peut pousser à la suspension d'une forme d'empathie.
Moi, je pense qu'il y a une guerre de civilisation, qu'elle existe, et je ne pense pas pour autant que les bébés palestiniens peuvent être passés par pertes et profits.
Oui, vous voyez bien quand même que ce conflit ne reflète pas un paradigme de guerre de civilisation.
Mais je suis d'accord.
Quand on a vu la Jordanie, l'Arabie Saoudite...
Mais par ailleurs, il y a une chose qu'on peut dire en tous les cas qui est formidable sur les Molières, c'est les applaudissements de la salle. Ça m'a étonné plus encore.
Enfin, certains ont suivi plus qu'ont initié ces applaudissements. Oui. Il y en avait qui étaient un petit peu mal à l'aise de voir le voisin applaudir et qui se sont dit, si je le fais pas, on va
Arthur
voir.
Arthur vient de dire quelque chose de terrible, c'est sans doute juste.
Non, mais c'est une meute. Regardez les Césars. Justement, le théâtre, c'est mieux tenu que les Césars. Mais non,
il
a raison. Vous êtes dans une salle, c'est une meute. Non, parce qu'en fait, vous savez qu'il y avait les caméras qui vous regardent et que vous suivez toujours. Regardez le nombre de bêtises aux Césars. Vous avez des starlettes en robe Chanel qui parlent de lutte des classes et tout le monde applaudit, mais stupidement. Ils sont pas tous crétins.
Ça ne va pas aller trop dans la caricature non plus. Les amis, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Le temps file. Le gouvernement a lancé donc hier, on en a parlé, les assises de l'antisémitisme pour tenter de lutter contre ce fléau qui a augmenté de plus de 300% au premier trimestre 2024. Ça fait des mois que la tendance est observée. La recrudescence des actes antisémites est étourdissante. Avant de me tourner vers Amaury, je voudrais que vous revoyiez ce chiffre qu'on vous montrait aussi hier parce que il va nous conduire justement vers ce qu'Amaury va nous décrire. 366 actes recensés donc. Tendance exacerbée chez les jeunes qui justifie ce rajeunissement de l'antisémitisme. 35% des moins de 25 ans, plus d'un tiers, estiment justifié de s'en prendre aux Juifs. juifs en raison de leur soutien supposé à Israël contre 21%, et c'est déjà énorme, de la population générale. À ce sujet, on va attendre avant de diffuser ce carton. À ce sujet, Amaury, vous avez suivi donc une affaire très symptomatique de ce qu'on est en train de décrire, de cette haine ambiante, notamment à travers les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, on a vu beaucoup de vidéos d'influenceurs qui crachent sur Israël et qui déversent leur haine des Juifs. Aujourd'hui, comparaissait au tribunal de Nanterre un homme accusé d'antisémitisme, encore un, je serais tenté de dire. Il lui est reproché d'avoir diffusé plusieurs vidéos, dont celle-ci. Regardez, il est déguisé en rabbin et... je ne sais pas quel mot utiliser. Écoutez-le, regardez.
On va mettre gris. 230. Voilà, il s'allume. Donc moi, je vais rentrer ma tête. On reste. Voilà.
Voilà, on a diffusé, évidemment, flouté cette séquence. Il est déguisé en rabbin, il met sa tête dans un four. Il y a d'autres vidéos de lui qui avaient été postées où il se met vous allez en parler, donc vous allez nous expliquer. Amaury, donc on comprend bien la référence entre la tenue de rabbin, ce four. C'est une allusion claire à l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette affaire?
Alors, en fait, ces vidéos, elles ont été publiées en octobre 2023, donc juste après le 7 octobre. Et c'est donc un jeune homme... qui sur TikTok a publié ses vidéos sous un pseudonyme assez évocateur, c'était Rationiste du 95 Live. Ça vous montre déjà.
Rat comme l'animal. Hein.
Voilà, Rationiste. Le projet derrière. Et donc, il y a plusieurs vidéos qui sont dans le viseur de la justice. Cette vidéo, effectivement, où il est déguisé en rabbin, il se met la tête dans le four. Une autre où il se gaze avec des désodorisants pour faire allusion, là encore, aux Juifs qui sont gazés. Mais aussi une photo où il... un montage non. où il avait mis les têtes de Cyril Hanouna et de Elie Semoun dans le même four que vous avez vu tout à l'heure. Alors, vous avez une plainte en fait qui a été déposée par l'organisation juive européenne, l'OJE, le 26 octobre 2023. Les investigations ont été lancées quelques mois plus tard, en janvier. Et ce jeune homme a été interpellé donc en avril. Et donc, il y avait cette audience aujourd'hui au tribunal de Nanterre. Et donc, cet homme, eh bien, il devait être jugé pour provocation à la haine en raison de la religion et apologie de crimes contre l'humanité.
Qu'est-ce qu'on sait de lui et des réponses surtout qu'il a données à la police, parce que vous avez pu avoir accès à certaines sources, justement.
Oui, alors il s'appelle Ilieska, il a 23 ans, il n'avait pas d'antécédent judiciaire, et il se dit musulman mais peu pratiquant et d'ailleurs apolitique. Il dit qu'il n'a pas d'idéologie particulière. Alors, ses explications, les explications qu'il a données à la police pendant ses auditions, eh bien, déjà, d'abord, il a reconnu les faits, il s'en est excusé et il explique avoir voulu faire de l'humour, j'allais dire un peu comme Guillaume Meurice, à la fois pour, si vous voulez, augmenter ses audiences et du même coup pour gagner de l'argent sur TikTok. Il indique avoir gagné jusqu'à 1400 euros par mois grâce à ce compte TikTok. Et alors, je vais vous citer quelques-unes de ces phrases qu'il a dites à la police. « J'ai compris que pour faire des vues sur TikTok, il fallait être choquant et j'ai choisi ce pseudo pour être choquant. » Et puis alors après, il raconte un peu plus en détail comment il a fait pour gagner de l'argent et en fait, comment est-ce que les internautes qui le regardaient l'encourageaient à aller encore plus loin dans cette forme d'antisémitisme. Il raconte que, par exemple, on peut lui offrir une rose... de manière numérique sur TikTok,
et ça équivaut
que ça lui rapporte à 1 centime. Après, il y a des cadeaux moyens, c'est 20 centimes, et que les plus gros, ça peut aller jusqu'à plusieurs euros. Et que, par exemple, pour mettre sa tête dans le four, eh bien, quelqu'un lui avait promis un cadeau pour qu'il le fasse. Alors, je vous propose maintenant d'écouter l'avocate maître Cindy Samama, qui est avocate bénévole au sein de l'Organisation Juive Européenne, et qui nous expliquait cet après-midi que malheureusement, ce genre de profils et de comportements sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Écoutez-la.
Avant, on déposait plainte surtout contre des personnes, contre des sorales, Dieudonné ou tout le reste. Et aujourd'hui, depuis le 7 octobre, on a beaucoup de personnes qui mélangent tout et qui développent une haine antisémite contre la communauté juive.
Donc il y avait cette audience à Amaury Bucaud qui se tenait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il a été jugé?
Eh bien non. Alors le prévenu était bien présent.
Il n'a pas été jugé?
Non, il n'a pas été jugé, mais il était là. Le prévenu était donc devant le tribunal à Nanterre. J'étais moi aussi. Ça s'est passé vers 13h30. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé devant le tribunal. Parce que ça montre, si vous voulez, à la fois j'allais dire presque l'extrême souplesse de la justice et en même temps le fait qu'elle soit débordée et des délais assez longs. Au début de l'audience, vous avez le président du tribunal qui demande au prévenu est-ce que vous avez un avocat ? Sachant qu'il avait une convocation, qu'on lui parlait déjà du fait qu'il devait, pouvait avoir un avocat. Il a répondu qu'il n'avait pas d'avocat. À ce moment-là, le président lui a dit « Est-ce que vous voulez un avocat ?» Il lui a dit que oui, il voulait bien un avocat. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le président a dit « Bon, bah, écoutez, puisque vous n'avez pas d'avocat et quand vous en voulez un, on va reporter l'audience. » Et à ce moment-là, le président du tribunal a dit « Est-ce qu'on peut trouver une audience rapidement, si vous voulez, pour ne pas avoir reporté trop loin cette date ?» Et la première audience qui a été trouvée, eh bien, c'est le 1er octobre, donc près d'un an après les faits, donc c'est quand même assez tard.
Dans six mois.
Et si, sachez bien que si le président du tribunal n'avait pas demandé une audience rapprochée, probablement que ce procès aurait lieu en
2025, 2026.
Pendant l'été ou en novembre.
Alors, il y a deux choses. Il y a la justice et il y a cet abruti. Je voudrais d'abord parler de ce que tu viens, de ce que vient juste de rappeler. Non, mais moi, vraiment, aucune sanction immédiate dans ce pays. Et ça explique la raison pour laquelle ce gamin, il a 23 ans, ce jeune homme fait ça en toute impunité. Comment voulez-vous qu'il comprenne la gravité de ce qu'il a fait?
D'accord. Alors, ça, c'est votre réponse. Moi, je ne crois pas, je l'ai déjà dit, je ne crois pas que le droit soit la solution à tout. Bien sûr, il faut sanctionner, oui. Mais si vous voulez, le problème, c'est que nous avons, je l'ai déjà dit, un droit. Le droit, c'est fait pour une société qui est relativement homogène culturellement, si vous voulez, qui partage quand même au moins un certain consensus sur le fait qu'on peut être en désaccord à l'intérieur de ce consensus. À l'évidence, si vous voulez, on a affaire à des gens qui sont sortis de ce consensus. Vous voyez bien que ce type-là, il est complètement... Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le sanctionner, je dis que ça ne peut pas tout résoudre. Et la deuxième... Moi, j'ai juste une question. Est-ce que... Parce qu'on voit bien, vous dites, la justice est débordée. Est-ce que dans ces cas-là, d'abord, c'est pas au parquet qui aurait dû se saisir de cette vidéo tout de suite ou de vidéos similaires avant d'attendre l'OGE ou je sais pas quoi? Et est-ce qu'il faudrait pas...
Il faut les voir déjà, il y a un tel flot.
Est-ce qu'il ne faut pas un parquet spécialisé pour le numérique? Parce que j'en ai assez d'entendre tous les quatre matins qu'on veut faire la police sur les réseaux sociaux et qu'il n'y ait jamais...
Alors,
là,
il y a
la plateforme Pharos.
La plateforme, effectivement, vous pouvez vous-même...
Qui a été renforcée
ces dernières années. Et après, pour le parquet, mais par exemple, ce TikToker, il était suivi par à peu près 3000 personnes. C'est pas beaucoup.
C'est rien.
Il y en a des millions comme lui, ou même des milliers. Alors en France, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est énorme, si vous voulez, pour aller voir. Et puis parfois, c'est des vidéos live, donc qui ne restent pas
là, on est
sur
même
la
pas,
plateforme.
On n'est même pas dans le cas d'un islamiste ou de quelqu'un qui a des convictions, une idéologie. On est avec un...
Il le sort pas de nulle part, quand même.
Non, mais
c'est
avec un individu. On est avec un individu qui a vu qu'il pouvait gagner quelques centimes cumulés, ça fait quelques euros, en faisant tout et n'importe quoi.
Vous croyez qu'il a rien entendu dans sa vie qui justifie?
Je pense surtout qu'il a rien dans le cerveau.
Non, pardon. Et ce type-là, il a pas fait ça sans avoir jamais rien entendu autour de lui qui justifie la haine des juifs. Enfin, écoutez, on se réveille pas à 20 ans pour faire des trucs comme ça si on n'a pas été.
Là, on assiste quand même à quelque chose de nouveau, c'est qu'on a un nouvel antisémitisme par le haut, qui arrive par les intellectuels via le wokisme, qui en fait critique l'Occident qui est sur un autre continent qui est Israël, et vous avez l'antisémitisme par le bas, ce qui est le cas ici, et je pense en effet que c'est pas l'antisémitisme qui vient nulle part, si par le bas, c'est-à-dire par le bas de la société, et qui vient, qui a un vieil antisémitisme qui vient de l'islam, et qui a été importé en France, et qui ressurgit aujourd'hui. Alors, moi, je pense pas que ce type-là commence à faire ses blagues foireuses. Et d'ailleurs, si 3000 personnes qui le suivent, on peut dire que c'est pas grand-chose. Ça fait quand même 3000 personnes qui le like, qui le suivent.
Donc, prend 2400 euros par mois.
Il y a des gens qui investissent pour qu'il aille encore plus loin. Et malheureusement, et c'est ça qui me dérange, c'est que le tabou, c'est pas qu'il y a l'antisémitisme en France. C'est quel visage de l'antisémitisme en France? C'est ça, le tabou.
Et
vous avez entendu le président le dire, vous?
Alors, pas le président, mais je crois que le Premier ministre, lui, est plus clair, me semble-t-il. Et surtout, plus personne. Enfin, ça est devenu un secret de polichinelle, je dirais.
Il y a aussi la question des réseaux sociaux, qui sont un accélérateur de particules sur cette question. Est-ce qu'on y trouve? Ça fait froid dans le dos. Maître Bouvier, on fait un tour de table. Chacun va dire un mot. Pas trop long, les amis, s'il vous plaît, parce que j'ai encore deux, trois thèmes à évoquer avec vous.
Il y a trois problèmes, quand même, ici. Le premier problème, c'est évidemment la justice, parce que c'est un problème dans la situation dans laquelle on est. Cette montée de l'antisémitisme, c'est particulièrement grave, c'est particulièrement problématique et ces images sont absolument abominables. Je pense qu'on a tous été particulièrement choqués sur ce plateau. Ça, c'est la première chose. Donc là, ça devrait être traité différemment et ça devrait être traité beaucoup plus rapidement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit, Julien, ils sont un catalyseur de la violence et on a des jeunes qui, effectivement, n'ont rien dans la tête, comme l'a dit Elisabeth, et qui peuvent pensent qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Le problème, c'est que même si on interdit un réseau social ou même si on interdit un site internet, il y a toujours des possibilités de pouvoir contourner de toute façon. Alors on a le Digital Service Act qui est passé par l'Union européenne tout récemment en février, qui peut-être va mettre en place des sanctions. Mais bon, il faut quand même rappeler que si jamais on veut poster des vidéos antisémites ou des vidéos violentes pour influencer, bah, c'est toujours possible avec un VPN en passant par le système de Tor, donc The Onion Router sur le dark web. Voilà, donc il y a d'autres possibilités. Et je rajouterai un dernier point parce que vous parliez également des assises de l'antisémitisme qui ont été mises en place par Europe RG. Ces assises de l'antisémitisme, elle les a annoncées le 6 mars. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler. C'est-à-dire que c'est un gros problème de société. Elle a déclaré que pour éviter tout amalgame, avec les politiques, il n'y aurait pas de politique. Mais ce n'est même pas que la question des politiques. Il faudrait que ces débats sur ces assises de l'antisémitisme soient retransmis à la télévision. Il faut de la transparence dans une démocratie. Ça va à l'encontre. Là, on a l'impression qu'ils ont une position particulièrement frileuse. On fait des assises sur l'antisémitisme, ok, très bien, mais il en ressort quoi? Est-ce qu'on fait participer les citoyens
pour
comprendre la situation?
Que c'est mal.
Voilà, que c'est mal. Mais comme vous l'avez dit, ils n'ont rien dans la tête. Et justement, si jamais on venait leur...
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de discussion.
Sur la lutte, sur les manières de lutter contre...
Hier, je ne sais pas si vous avez suivi, hier, on a montré ce témoignage qui a d'ailleurs été diffusé sur le Twitter d'Aurore Berger. C'était une gamine de 8 ans. 8 ans qui témoignait, donc c'est une vidéo qu'a diffusée Aurore Berger sur ses réseaux sociaux. Une fille de 8 ans, elle racontait qu'en classe de nature, certaines filles ne voulaient pas dormir avec elle, ne voulaient pas partager la même chambrée qu'elle parce qu'elle est juive. Et je me dis que ces gamines-là, elles qui ne veulent pas partager la chambrée, elles ont 8 ans, donc elles ne sont pas antisémites.
Famille,
personne n'est antisémite à 8 ans.
Mais ça dans ta famille, t'entends quoi?
Dans l'entourage, on enseigne la haine du juif. Nathan, Philippe?
Deux petites remarques, une sur les réseaux sociaux, une sur l'antisémitisme. En effet, les réseaux sociaux, c'est devenu très souvent un catalyseur de ce qu'il y a de pire. Si on fait ce pari de créer un compte et de vouloir avoir 100 000 abonnements en 6 mois...
Ah, on je suis à deux doigts de penser qu'il faut interdire TikTok, par exemple, dans ce pays. Quoi. Enfin,
mais TikTok ou Twitter...
Je faisais le pari, je ne suis qu'à deux doigts de le penser.
Julien, de vous dire, vous me laissez 6 mois pour avoir 100 000 followers, je ne vais pas faire des tweets à la Bernard Pivot. Je vais écrire des... Enfin, une personne
vous allez être outrancier.
Des insanités racistes, haineuses... Quelle que soit la communauté visée, et elle aurait plus
parce
de chance,
a pas du gain,
en
aussi.
Effet, de monter. Et deuxièmement, sur l'antisémitisme, en fait, c'est absolument terrible à dire, mais je vais le dire, tout ça est, entre guillemets, normal au sens de explicable, dès lors que depuis le 7 octobre, vous avez eu des personnalités publiques de premier plan, des gens très respectables, entre guillemets, des députés, des chefs de parti, des intellectuels, qui ont eu des positions scandaleuses, en faisant cette stratégie, vous savez, du sifflement de chien, comme on dit en anglais, ça veut dire sans dire les mots, sans dépasser eux-mêmes la ligne rouge, mais en faisant des petits clins d'œil qui sont très clairs, bah évidemment que l'antisémitisme monte dans une société. Le contraire eût été étonnant.
À quels intellectuels tu pensais, pardon?
Sur les politiques, je visais les politiques.
Oui, les politiques, on a compris.
Les intellectuels, j'ai pas la spéciale...
Avant
à donner, mais enfin, ceux qui... ou des militants politiques,
des militants,
je
ne
vais pas donner de nom. Mais...
Juste entre le... Pardon, je fais juste un détour par Amaury. Entre le moment, donc entre aujourd'hui et le 1er octobre prochain, il est libre, sans aucune contrainte, sans aucun problème. Libre. Il peut continuer de diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux, s'il en a envie.
Oui, alors bon, il a reconnu les faits, il s'est excusé, a priori, il ne va pas recommencer.
Ah, il a montré quand même des excuses,
Quand il a été entendu par la police, il a immédiatement reconnu les faits, il a dit « je suis désolé ». J'ai fait ça par humour, je voulais me faire de l'argent et de la notoriété, c'est pour ça.
Alors, je me permets une question à Maurice.
Il est
contrôle judiciaire.
Pas à ma connaissance.
Philippe.
Moi, je ne crois pas une seconde à l'explication par l'appât du gain. C'est faire ça, avoir l'esprit suffisamment malade pour faire ça,
c'est sûr
qu'il faut s'être, je vais mettre plein de guillemets, nourri quelque part. Alors, sur les origines de l'antisémitisme en France, de l'antisémitisme contemporain, il y a plusieurs sources. Il y a une source arabo-musulmane qui existe. Ce serait totalement stupide de le nier. Il y a aussi Dieudonné et Soral qui ont précédé. Hein.
C'est ce que dit l'avocate d'ailleurs.
On fait tout commencer au 7 octobre. D'abord, l'antisémitisme a commencé à augmenter en France. Les faits antisémites ont commencé à augmenter depuis une vingtaine d'années.
En 2000, précisément.
Depuis une vingtaine d'années, et c'est exactement 2000. Oui. Et puis, on a eu des gens, Soral, Dieudonné, d'autres, qui ont beaucoup joué avec l'antisémitisme et qui ont eu des discours parfaitement antisémites.
Auprès de
c'est
qui
pas pour,
auprès de qui, justement
auprès d'une jeunesse populaire qui a pu être pas dans
que,
les banlieues.
Pas qu'une jeunesse immigrée. Il y a aussi les petits, les sous-antélo-bobos.
Ça a commencé comme ça au départ.
Philippe, s'il vous plaît, laissez finir, Philippe.
Et donc, je pense qu'il y a une culture antisémite qui existe, qui peut avoir plusieurs origines. C'est vrai que l'antisémitisme, l'anti-judaïsme chrétien est en complète perte de vitesse depuis une vingtaine, trentaine d'années. Mais si on veut faire des assises de l'antisémitisme, il serait temps quand même qu'on s'intéresse à ce sujet de près et qu'on n'en soit pas c'est simplement quoi, à faire confiance allez à la justice dont on voit qu'il y a accessoirement.
Oui, dernier mot avec Elisabeth.
On est tous d'accord, mais on est quand même un peu désespérés et démunis parce que les combats idéologiques, c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus difficile.
C'est vrai,
et
il faut les mener.
On se sent, comment dire, on se sent quand même tout de même un peu vraiment démuni et impuissant, pardon. Je voulais vous dire autre chose. C'est difficile de finir. Je vous assure parce que comme on fait du ping-pong à chaque fois, je voulais, c'est pas grave, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Une contre-idéologie.
Comment ?
Faut essayer de mener une contre-idéologie.
Une contre-idée. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est que ce qu'on voit là. Et on l'a vu avec Dieudonné. On a fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou disons 40 ans plutôt, depuis 80, de devoirs de mémoire, de cours sur ceci, de voyage à Auschwitz, et on en est là. Alors,
c'est terrible.
C'est terrible, ça veut dire aussi qu'il
on en
faut
est là parce que le 7 octobre
non, mais
a réveillé.
On pouvait, parce que quand on a dit en 2000 qu'on ne pouvait plus enseigner l'histoire de l'extermination des Juifs dans les écoles, tout le monde, toute la gauche a fait, excuse-moi la Philippe, je me dépêche.
Hey.
Toute la gauche a fait des mines.
Le rapport
si.
Pas sous la gauche.
Aubin.
En 2000, au moment des territoires perdus, on a découvert l'antisémitisme arabo-musulman. Toute la gauche, ou presque, a dit ça n'existe pas.
C'est quand même. Retour sur le. Je voudrais qu'on revienne. On avance, pardon, les amis, pardon. Parce que le temps.
J'avais compté, promis d'être courte, je m'excuse.
Oui, vous avez tenu votre promesse, Elisabeth. Je vous remercie.
Je me roule pas.
Il n'y a pas nécessaire. Retour sur le sort de cette dame qu'on a découvert il y a quelques jours, qui s'appelle Colombe, cette bénévole des Restos du Cœur, que l'association avait, dans un premier temps, exclue de ses rangs, car elle avait assisté à un meeting du Rassemblement National avant de la réintégrer au vu de la polémique qui a été provoquée. Polémique qui dit beaucoup, semble-t-il, sur l'atmosphère qui règne dans cette société. Regardez ce sujet et on va en parler quelques instants ensemble.
Colombe sera finalement de retour au Resto du Cœur. Une décision accueillie avec soulagement par cette bénévole de l'association depuis 34 ans. À l'origine de la polémique, une interview tournée par nos confrères de TF1, où Colombe, 60 ans, évoque les raisons de sa venue au meeting du Rassemblement National le 1er mai à Perpignan.
Je suis au RSA et on a du mal à vivre. Je suis conseillère en insertion professionnelle et aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue.
En affichant son appartenance au Resto du Cœur lors de ce meeting, Colombe a reçu un rappel à l'ordre d'un responsable de l'association, la charte du collectif, obligeant les bénévoles à respecter le principe de neutralité politique.
En fait, ce ne sont pas les états-majors des Restos du Cœur qui lui ont demandé de partir. En fait, c'est une responsable locale qui a pris l'initiative de lui demander de démissionner.
Son message a en tout cas été reçu. Au chômage depuis 3 mois, Colombe retrouvera un emploi prochainement, offert par la mairie de Perpignan.
Elle va rencontrer cet après-midi la directrice du CCAS et peut-être pour trouver un emploi. Je sais que c'est une dame au très grand cœur, qui ne fait pas de politique, mais qui a chevillé au corps l'entraide et la solidarité avec les autres, eh bien, j'allais vous dire bienvenue.
Un nouveau poste donc pour Colombe et un autre bénévole maintenu au sein des Restos du Cœur.
Alors, on va évoquer ce cas de Colombe et ce qu'il symbolise, mais à quasiment 23h30, on salue de nouveau Audrey Chiombo pour Sandra. C'est fou, Sandra, je ne sais pas ce que j'ai. Ça fait quoi, 2 ans que vous êtes avec nous?
Oui.
Ça fait 2 ans que j'ai tendance à vous appeler Audrey et je vous prie vraiment de m'excuser. C'est un très mauvais réflexe. C'est Sandra, bien sûr, Chiombo, qui va. C'est peut-être parce que j'ai.
Il y a une Audrey dans votre vie.
Pas du tout. Non. Sandra Chiombo et les images notamment du Paris Saint-Germain ce soir, l'essentiel de l'actu.
Thank you.
Il y avait la place, il a manqué l'efficacité. Ce sont les mots de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont été éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont été battus 1-0 par Dortmund ce soir au Parc des Princes. Ils avaient été défaits sur le même score au match aller. Les Allemands affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich en finale le 1er juin à Wembley. L'entrée des locaux de Sciences Po Paris était à nouveau bloquée ce matin. Des dizaines d'étudiants pro-palestiniens se sont rassemblés. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser le groupe. À cette occasion, François-Xavier Bellamy et Louis Boyard ont pu confronter leurs idées. Et puis à l'international, Vladimir Poutine a prêté serment pour un 5e mandat. Dans un discours solennel, le président de la Russie a évoqué les défis qui attendent les Russes. Il promet à ses compatriotes la victoire dans le conflit armé contre l'Ukraine. Il a également fait passer un message aux Occidentaux, soutien de Kiev contre l'offensive russe.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actu. Merci beaucoup, chère Sandra. C'est la dernière fois que je me tranche, je vous le promets. On parle de Colombe, donc, qui, cette bénévole a été réintégrée par les Restaurants du Cœur. Je voudrais qu'on entende Jordan Bardella, qui a évoqué également le cas de cette femme qui incarne une France qui n'y arrive plus. Elle a travaillé, elle a 60 ans, elle a peu de chances d'être réembauchée. Alors, il se trouve que Louis Alliot lui a proposé un emploi aujourd'hui. Elle est le symbole de beaucoup de choses dans ce pays. Écoutez Jordan Bardella.
Je trouve que la décision... un peu à la va-vite des Restos du Cœur, d'écarter l'une de ses bénévoles qui est dans une situation sociale elle-même difficile et qui pourtant accorde son temps à nos compatriotes les plus démunis au motif qu'elle était présente à un meeting du Rassemblement National est assez indigne, je trouve.
Cette affaire, elle est désastreuse pour les Restos du Cœur, Maître Bouvier.
Oui, tout à fait. Moi, je suis scandalisée, je suis écœurée. Et puis, c'est tout à fait paradoxal pour une association comme celle-ci de stigmatiser une personne en raison de ses opinions politiques. Enfin, elle a parfaitement le droit d'aller...
On ne connaît même pas ses opinions, elle est juste assistée.
Oui, elle est juste
ça ne veut même pas dire qu'elle vote RN.
Et de toute façon...
Disons qu'il peut y avoir une petite raison.
Oui, enfin, peu importe.
Mais peu importe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mépris. Il y a un mépris profond de cette femme, donc d'une population qui est en difficulté, qui vote peut-être RN et c'est son choix, et qui aurait certainement voté le Parti communiste quand on avait un Parti communiste fort avant, parce qu'elle ne sort pas écoutée aujourd'hui. Et donc, ce qu'il ferait mieux de faire, c'est de s'interroger pourquoi elle est au meeting de Jordan Bardella, parce que peut-être qu'elle ne trouve pas les réponses qu'elle aimerait trouver.
Évidemment.
Et l'aide qu'elle aimerait trouver. Et je trouve ça vraiment... le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment dégueulasse, en fait, de condamner des gens parce qu'ils vont assister à un meeting et cette...
Après, il y a eu ce rétropédalage.
Il y a eu ce rétropédalage parce que ça a été médiatisé.
Après, je rappelle, on peut imaginer les raisons du rétropédalage. Hein. La séquence qui met le feu aux poudres d'un de nos confrères et de TF1. TF1 qui a les droits des enfoirés, des Restos du Cœur, qui font des audiences, qui cartonnent chaque année. Donc, on peut imaginer qu'il y a un petit conflit d'intérêts quand même et que les Restos du Cœur aient été rappelés à l'ordre. Cette affaire, Philippe Guibert, cette affaire, est-ce qu'elle doit être un révélateur pour que les autres politiques... pour que les autres politiques prennent conscience que ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus que le RN vers qui se tourner.
Oui, bien sûr. Enfin, ceci dit, si on veut être honnête, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là quand j'étais encore mêlé à la politique, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on peut faire ce constat. Mm-hmm. Je veux dire, la gauche, dont je viens, a une responsabilité particulière. On ne peut pas dire qu'on attend mai 2024 pour découvrir cette réalité. Le 21 avril 2002, où Jospin est éliminé et Jean-Marie Le Pen qualifié, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et les prémices de tout ça vont beaucoup plus loin. Ça remonte aux années 90 en réalité. Donc là-dessus, sur le fait que la gauche, que le Parti communiste, que le Parti socialiste en particulier, n'aient pu apporter de réponse, une offre politique, une culture commune à tous ces milieux populaires, c'est un constat d'échec depuis 20 à 30 ans. Juste une petite remarque, si vous me permettez, Julien, sur la Resto du Cœur. Il semble bien que ça soit un responsable local.
Oui, oui, ça a été précisé.
Qui a très mal réagi.
Vous avez raison.
De façon...
De Perpignan.
J'allais dire idiote. En tout cas, hyper contre-productive. Et que c'est la direction des Restos du Cœur à Paris qui a dit, attendez, arrêtez la catastrophe. On ne vire pas quelqu'un parce que...
Oui.
Et elle était...
Pensez à notre image.
Et donc, c'est... Voilà, il faut. C'est pas les Restos du Cœur Paris qui ont commis
non.
Cette bévue.
Oui, enfin, les Restos du Cœur, ça reste les Restos du Cœur, hein, qu'ils soient à Paris, à Perpignan ou à Montélimar.
Oui, d'accord. Hein, enfin, la direction des Restos du Cœur.
Si c'était Orange, vous ne diriez pas.
Vous avez raison. Nathan, un dernier mot.
Si c'était la SNCF ou Orange, tu ne dirais pas ça.
Cette vidéo de Colomb.
Parce qu'on défendra la direction de la SNCF qui a pris la bonne décision après une mauvaise décision locale.
Nathan Devers.
Même chose. Oui, cette vidéo de Colomb, je pense que c'était un moment vraiment d'irruption du réel, bouleversante en cela. D'abord de voir la souffrance d'une femme qui racontait qu'elle était au RSA, qu'autour d'elle, dans son milieu, il y avait un chômage qui était explosif, qu'elle n'en perdait pas sa solidarité. Et des gens qui sont dans des situations très délicates, très précaires, et qui continuent d'être bénévoles au Resto du Cœur, on ne peut qu'avoir une forme d'admiration. C'était un moment triste aussi pour la gauche que de se dire comment se fait-il qu'une électrice comme ça, dont le lexique reprenait que des thématiques de gauche, puisse voter pour un parti qui, dans sa politique, dans ses votes effectifs au Parlement, approuve que des mesures antisociales. Le Rassemblement National au pouvoir, ça change pas la vie de Colombe, ça change pas la vie des gens qui sont en RSA, bah je vais le dire. C'est le vote contre l'augmentation des salaires, c'est le vote contre l'augmentation des minima sociaux, c'est le vote contre l'indexation.
En tout cas, il y en a un qui rassemble toutes les colères en ce moment, il s'appelle Jordan Bardella, hein, au niveau des sondages pour les prochaines élections.
Des réseaux sociaux, c'est une chose. Le programme social du Rassemblement National est un programme antisocial.
Alors pourquoi est-ce que les Français les plus précaires se tournent vers le Rassemblement National désormais?
Pour deux raisons, je pense.
À cause de National.
D'abord, pour une première chose, qui est une forme de médiocrité du débat public. Comment se fait-il qu'un parti littéralement antisocial puisse comme ça devenir le représentant des classes populaires? Et deuxièmement, il faut aussi le dire, une grande condescendance qui vient d'une partie de la gauche.
Voilà.
Alors, il y a eu sous la vidéo de Colombe, par exemple, un tweet de Gérard Filoche qui avait écrit « Une dinde qui vote pour Noël ».
C'est pas vrai.
Voilà.
Si.
Et bah, quand vous voyez ça,
wow, je l'ai pas
vu, et ça c'était la version la plus dégueulasse, la plus macho, la plus abjecte. Mais des tweets de gauche comme ça, très condescendants, voilà. Donc il y a deux personnes qui ont émergé, Léon Desfontaines et François Ruffin, qui ont eu une position respectueuse, humaine, pas condescendante, dans l'écoute des problèmes, non seulement de Colombe, mais de toutes les colombes de France, et qui veulent essayer de reconstruire une gauche sur fond de cette réalité, ce qui me semble très important aujourd'hui.
Bon, écoutez, on souhaite en tout cas que cette situation s'apaise.
Une des raisons pour lesquelles les classes populaires se sont tournées vers le Front National puis le Rassemblement National, c'est parce qu'il était national, parce qu'il leur disait la France.
Oui.
Et que les autres leur disaient la France, c'est rien du tout, elle doit disparaître dans l'Europe. Et ça, c'est vraiment la trahison de la gauche pour moi, c'est d'avoir abandonné la nation et la laïcité.
Nous sommes 10 jours. Passons à un tout autre sujet. 10 jours après le décès tragique de Matisse, poignardé quartier Saint-Denis à Châteauroux. Une cérémonie s'est déroulée ce midi au stade Gaston Petit de Châteauroux, donc à l'initiative de la famille et des proches. Une tribune avait été ouverte pour l'occasion, des écrans géants installés. Les parents de Matisse ont pris la parole, ainsi que des proches et une de ses professeurs au collège. Thibault Marcheteau a assisté à cet hommage pour CNews.
Cet ultime hommage, il a duré une heure à l'intérieur du stade de Gaston Petit, ici à Châteauroux. Et les clins d'œil à la passion du jeune Matisse ont été très nombreux durant cette cérémonie. Le cercueil blanc est arrivé frappé du blason du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs sur la musique de l'entrée des joueurs parisiens que le cercueil est rentré sur la pelouse de ce stade. Le capitaine de la Berrichonne de Châteauroux, le club dont était fan le jeune Matisse, est venu lui-même déposer un maillot dédicacé sur le cercueil. Enfin, la famille a pris la parole. Le père a juré devant le cercueil de son fils qu'il continuerait à faire de la prévention auprès des médias, auprès des jeunes, pour que ce drame n'arrive plus jamais. Je vous propose d'écouter les Cassel-Roussin à la sortie de cette cérémonie.
Ils ont fait un très très bel hommage. Je remercie beaucoup les parents d'avoir joué le jeu jusqu'au bout de la passion de leur fils et de ne pas être resté dans le classique et d'être toujours ici, rester très fort dans leurs mots. Voilà, c'est des beaux parents, c'est des belles personnes, c'est très bien.
Pour moi, oui, c'est très important. J'ai un petit-fils qui a cet âge-là. Et puis, bon, là, je connaissais un petit peu les parents. Et puis, bon, ça ne devrait jamais arriver. Quoi, voilà.
Le cercueil a quitté le stade sur une hola à la demande de la famille pour un ultime clin d'œil à la passion de cet adolescent mort à 15 ans. La famille s'est ensuite réunie dans la plus stricte intimité pour rendre un dernier hommage à Matisse.
Arthur de Vatrigan, on est en échec face à cette violence des jeunes. On ne sait plus par quel bout prendre cette problématique.
On commence à en avoir un peu marre des marches blanches. Il n'y a que ça, en fait, finalement. Et on attend la marche blanche, c'est le seul moyen aux victimes et aux familles, aux proches de victimes et l'entourage géographique de s'exprimer. Mais on aimerait bien qu'en fait, la politique s'exprime plus, que la justice soit plus ferme. Et malheureusement, on ne le voit pas. Alors, on commence à aborder malheureusement, il a fallu 2 ou 3 morts, mais on commence à aborder le sujet de l'ultra-violence. C'est-à-dire déjà, il y a une violence qui est supérieure à celle d'avant chez les plus jeunes. C'est bien, on en parle. Maintenant, ça vient de passer à l'étape d'après. Et surtout, de pas oublier un impensé, je trouve, qui est vraiment l'angle mort de nos politiques et même de responsables médiatiques, c'est les parents. C'est qu'il faut pas oublier que les parents d'aujourd'hui étaient les parents de barbares d'aujourd'hui étaient des barbares eux-mêmes d'hier. Et des barbares qui ont été très peu punis. Et donc, comment voulez-vous qu'ils jouent un rôle d'éducateur alors que, par exemple, si on prend dans les émeutiers, ceux de 2005, ils ont l'âge d'être parents, dans les trafiquants de drogue également. Donc, s'ils ont pas été punis, s'ils ont pas pris la République en pleine tronche, ils voulaient qu'ils transmettent quoi? Et on a un impensé là-dessus qui est effrayant parce que non seulement les parents, c'est pas qu'ils sont dépassés, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'aujourd'hui ils participent à la violence de leurs enfants.
L'histoire de cette mère qui a.
Mais pas que dans cette mère.
L'enquête doit vraiment nous dire pourquoi est-ce qu'elle a porté des coups.
Je parle pas de cette mère-là, mais dans d'autres affaires encore plus récentes, quoi. Récentes, c'est la confirmation que les parents participaient à la violence. Et donc, là, on commence à dire oui, on va interdire les allocations et puis on va peut-être sanctionner. Mais il y a un article de loi qui existe déjà, l'article 217-17, qui peut sanctionner très fermement un parent qui se soustrait à ses responsabilités. Il n'a jamais été appliqué, cet article-là.
Donc ce n'est pas la répression, la question. Bah
on veut que la loi soit appliquée déjà.
Alors, Maître Bouvier, d'abord. Maître Bouvier, revoir les codes de justice, le code de justice des pénales des mineurs, déployer des budgets pour des centres d'éducation fermés ou à défaut peut-être expulser les 25% de prisonniers étrangers qui n'ont rien à faire dans nos prisons. Peut-être que ça permettrait, sur le volet répressif, déjà d'y voir un petit peu plus clair ?
Effectivement, il y a un problème avec les textes, ça c'est une évidence, mais il y a aussi un problème avec les institutions. C'est-à-dire que là, moi, on peut que se réjouir qu'il y ait autant de personnes qui soient présentes pour cette marche blanche pour Matisse. C'est terrible, le mal est fait.
C'est une cérémonie d'hommage.
Cérémonie d'hommage. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées, donc beaucoup de personnes qui ont été touchées. Et j'aimerais justement que ces personnes-là sachent, parce que il y a un outil qui est méconnu, qui est prévu dans le Code de l'action sociale et des familles, qui s'appelle l'information préoccupante. L'information préoccupante, elle permet à n'importe qui, un particulier, l'école, un médecin, les policiers, peu importe, de prévenir si un enfant ou un adolescent semble en danger physique ou psychologique ou peut causer des dommages physiques ou psychologiques contre quelqu'un d'autre. Or, ici, dans l'hypothèse de Matisse, tout le monde savait. Cet enfant-là, on savait très bien qu'il était en difficulté scolaire. La police intervenait régulièrement chez lui.
L'agresseur, vous parlez ?
L'agresseur, oui. La police intervenait régulièrement chez lui. Il était en difficulté scolaire.
Il a été interpellé deux fois les mois qui ont précédé le meurtre de Matisse.
Il avait été interpellé. Il faisait peur. Il y a plusieurs témoignages qui ont montré de personnes qui ont expliqué qu'ils le côtoyaient dans le quartier et qu'ils avaient peur de lui. Et il faut que justement ces personnes-là, ces personnes qui sont à cette cérémonie d'hommage, savent qu'ils peuvent éviter justement d'autres drames en appelant...
La mère de Samara à Montpellier pensait pouvoir éviter un drame en prévenant le lycée qu'il ne fallait pas laisser sortir sa fille.
Mais là, ce n'est pas le lycée, là, c'est le département, c'est ce qu'on appelle la CRIP. C'est le service d'information préoccupante et il faut appeler le 119. Et le 119 permet ensuite de pouvoir...
Et comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ce numéro?
Parce qu'on n'en parle pas, justement.
Mais
c'est pour ça qu'on en parle. Ça permet de mener une enquête sociale. Oui. Le procureur peut ensuite en saisir le juge des enfants. Et le juge des enfants peut placer un enfant...
Entre le moment où vous saisissez, vous passez le 119.
Mais ça peut aller vite. Non, au contraire.
Et le moment où le juge il est saisi, je pense que le gamin, il a le temps de planter quelques coups de couteau.
Vous êtes une bonne avocate, et donc vous pensez, évidemment, que... Évidemment, le droit va pouvoir résoudre tous les problèmes. Alors, et vous avez raison, il faudrait sanctionner. Mais simplement, on a de plus en plus souvent
Écoutez-vous.
Qui relève d'un conflit quasiment anthropologique, d'un conflit de valeurs. C'est-à-dire, dans le cas de, par exemple, les deux agresseurs de Chemseddine. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'est à parler à ma sœur.
Oui. La virée Châtillon.
Qu'est-ce que le droit peut faire ? Si vous voulez, en réalité, par exemple, dans le cas de l'agresseur de Matisse et de, je pense que il y a un moment, il faut pas laisser entrer. On a déjà une violence ici sur notre territoire. Ça ne me paraît pas utile de laisser entrer des gens, si vous voulez, dont les systèmes de valeurs et les systèmes anthropologiques sont si éloignés des nôtres. Et votre 119, c'est certainement super.
Vous rejoignez ce que je dis.
Ça veut dire je rajoute. Voilà.
Pour éviter ce genre de choses, pour éviter ce genre de drame, pour alerter les autorités sur ce type de personnages comme les agresseurs de Shamseddine, comme les agresseurs de Matisse, etc. Mmh. Il faut que nous nous responsabilisions tous et
qu'on arrête de les faire entrer.
Il y a des choses à revoir.
Et j'ajouterai
peut-être
un point, c'est que les informations préoccupantes, elles sont anonymes. C'est-à-dire que on peut faire une information préoccupante et on n'aura pas votre nom.
On peut avoir ce numéro. On peut parler du tout répressif, d'une justice qui doit peut-être sanctionner plus fermement, plus rapidement.
On peut parler d'immigration.
Mais qu'est-ce qu'on propose politiquement pour éviter que la jeunesse nous échappe durablement, Philippe ?
À la question de l'intégration.
Oui.
Parce que c'est les personnes dont on parle et dont tu parles, Elisabeth, elles sont arrivées pas hier matin en France, elles sont arrivées il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Et la famille du Tchétchène, là, oui ?
Et qu'on a raté.
De l'Afghanistan, oui.
Ils sont arrivés en 2004.
Je vais bien essayer de finir ma
2014.
Et qu'on a raté la prise en charge, la politique d'intégration et d'assimilation. En général, ça suit en deux temps, l'intégration puis l'assimilation. Et que tout ça, on l'a raté. Donc, je suis d'accord qu'on est dans un pays où les capacités d'intégration étant à ce point affaiblies, la quantité de personnes qu'on accueille est bien une vraie question que je n'évacue absolument pas. Je pense même qu'il faut la réduire. Bon, je pense que zéro immigration, ça n'a pas de sens, mais qu'il faudrait la réduire. N'empêche qu'au-delà de cette question tout à fait légitime, la question de l'intégration et puis de l'assimilation de ces familles qui, comme tu le dis, viennent de pays, de culture, de religion... Et d'anthropologie qui leur fait avoir une vision du monde, une vision des rapports entre les hommes et les femmes, entre autres, en particulier, tout à fait différente, devrait nous mobiliser parce que de toute façon, il y en a qui sont là et qui sont français. Et il va bien falloir qu'on trouve une solution pour les intégrer et les assimiler.
On a tous les deux raisons.
En tout cas, ces images sont particulièrement émouvantes et je repense à ce père qu'on a entendu dans les médias ces derniers jours et qui s'est montré particulièrement digne, qui a eu des mots extrêmement émouvants également et cette famille qui pleure ce soir encore, bien sûr. Matisse, à qui ce bel hommage a été rendu aujourd'hui. Il nous reste 4-5 minutes. Je voulais pas qu'on se quitte sur quelque chose d'aussi dramatique et qu'on finisse avec un sujet que j'allais qualifier d'un peu plus léger, mais
le PSG.
Pas forcément. Non. Je voulais parler d'Elisabeth Badinter, signe ce bouquin là qui est sur le point de sortir et qui est sorti il y a quelques jours.
Messieurs, encore un effort.
Ouais. Les mots sont pas signés Sandrine Rousseau. Hein. Ils sont bien signés d'Elisabeth Badinter. Être mère n'a jamais été aussi difficile, estime-t-elle dans ce livre. Elle appelle à une meilleure répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Elle s'inquiète aussi des conséquences de la chute de la démographie. Je vous donne un extrait. Faire un bébé aujourd'hui, non plutôt un extrait de son interview qu'elle a donné à Radio France ces dernières heures. Faire un bébé aujourd'hui, c'est accepter une moindre rémunération tout en assumant les contraintes de la double journée. C'est supporter bien davantage que le père le poids psychologique de la parentalité. Tant que cet effort ne sera pas achevé, je crois que les femmes seront de plus en plus réticentes à faire plus d'enfants qu'elles n'en font aujourd'hui, estime donc Madame Badinter, qui aborde longuement dans son livre la chute de la démographie, notamment dans notre pays. Qu'est-ce qui vous fait autant
français ? Ce qui me choque, c'est qu'on dirait que les femmes font des enfants toutes seules. On dirait que les décisions de faire des enfants ou de ne pas en faire est uniquement une décision des femmes et qu'elles n'auraient donc comme raison.
Non, ce qu'elle dit, c'est que les femmes ne sont pas assez aidées, et que donc faire un enfant, c'est finalement une forme de double charge de travail et de charge mentale.
J'aime beaucoup Elisabeth Badinter, je la respecte.
Moi aussi, mais là, je la reconnais assez peu.
Avant de critiquer ses propos, je vais lire son livre. Je n'aime pas.
En gros, ce qu'elle me dit, si je résume en une phrase, être mère n'a jamais été aussi difficile. On aime beaucoup Elisabeth Badinter, mais je trouve qu'elle exagère un petit peu.
Non, mais pas pour ses raisons. Elle a raison de dire que c'est difficile d'être mère. Elle a raison, mais c'est pas pour ses raisons. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez 30-40 ans que vous voulez être mère, vous êtes coincé entre deux... On vous impose deux choses. On vous dit qu'il faut être une femme libre et donc il faut travailler. En même temps, il faut être une mère. Sauf que c'est compliqué de faire les deux. Et si vous êtes une mère, on vous dit que t'es pas libre, t'es soumis au patriarcat. Et inversement.
C'est donc en fait,
non, mais évidemment que c'est possible. Mais la société ne le pense pas comme
c'est
ça. Parce
possible,
que regardez,
c'est
on vous dit...
Ma mère a travaillé toute sa vie. Toutes nos mères ont des peintures.
Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que c'est compliqué d'être mère aujourd'hui, pas d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi social. Vous êtes dans un dîner, la mère au foyer, personne ne lui pose des questions.
Elle n'existe pas. Parce que l'injonction, c'est il faut que tu travailles, il faut être libre. C'est ce que nous a sorti les néo-féministes pendant 30 ans. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Non, parce qu'il y a 1/3 des femmes souhaiteraient être mères au foyer. Elles ne peuvent pas pour des raisons économiques, elles ne peuvent pas pour des raisons sociales. Et aujourd'hui, de dire que le père ne participe plus, mais c'est, il faudra peut-être soit arrêter de fréquenter les gens de sa génération et aller voir ce que font les gens de l'âge de son petit-fils, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, je me promets que les pères, ils changent les couches, ils descendent les poubelles, ils font la douche. Et la répartition. Bien sûr, évidemment. Et la répartition des tâches, elle existe.
Alors, c'est surtout Maître Bouvier qui a demandé la parole dans un premier temps. Ah, Maître Bouvier a changé. Allez-y, Laure Alice et Philippe, je vous promets que vous êtes le suivant.
Merci Julien, tout à fait. J'aime aussi beaucoup Elisabeth Badinter, mais c'est vrai que là, elle force le trait. La question n'est pas simplement la question des hommes qui n'aideraient pas assez leurs femmes dans les tâches ménagères. Je vais vous donner l'exemple des avocates, parce que j'en connais beaucoup. Le problème avec les avocates, c'est qu'on n'a pas de contrat de travail quand on est dans un cabinet. On a un statut de collaborateur, donc un statut indépendant. Il y a énormément...
Non, mais la question n'est pas le travail de ces dames, mais est-ce que les hommes font assez d'efforts pour que ces dames puissent...
C'est qu'il faudrait qu'on ait une problématique ici qui est sociale, qui est économique et qui est culturelle. Et donc, par conséquent, ce qu'il faudrait aussi, c'est permettre à ces femmes de pouvoir travailler aussi sans se faire entendre dire « Ah ben, j'espère que vous ne ferez pas d'enfants dans les 3 prochaines années parce que sinon, vous virez du cabinet. »
Ça existe encore, ça ?
Oui, je vous assure que ça existe encore.
D'accord. Bah, écoutez, je peux que m'incliner. Hein. Je par définition, j'ai jamais vécu ça. Alors,
je voulais souligner en réponse à Philippe que le fait que les femmes travaillent et aient leur indépendance économique est un énorme progrès.
Oui, merci.
Oui, mais c'est pas le sujet. Vous avez mille fois raison, mais c'est pas le sujet.
J'ai pas dit le contraire.
Excusez-moi, c'était un peu le sujet dans ce que disait Arthur.
Non, j'ai pas dit le contraire.
Et que l'idéal de la femme au foyer, moi j'ai connu ça dans ma... prime enfance, donc il y a quelques années maintenant, je ne suis vraiment pas sûr que ça soit le bon modèle. Et ça, je pourrais vous montrer
un modèle. Femme veut rester au foyer.
C'est une demande de 1/3 des femmes.
Je pense que c'est pas le bon modèle.
Bon modèle.
Je pense que c'est un mauvais modèle. Mais c'est mon opinion.
Le mot de la fin, Nathan Devers.
Et donc, à partir de là, effectivement, dans ces conditions-là, c'est pas la grossesse, c'est pas tout ça est plus facile aujourd'hui qu'il y a 50, 60, 70 ans.
La question, c'est est-ce que les hommes en font assez aujourd'hui en 2024?
Mais en revanche, ça suppose de revoir les conditions à partir du moment où les femmes ont cette indépendance économique et ce travail.
Allez, vous avez 50 secondes, Nathan.
En 50 secondes, je suis complètement d'accord avec Elisabeth Badinter sur le constat de l'inégalité de la répartition dans les couples, sur les enfants. Je suis pas d'accord en revanche, je suis pas sûr d'être d'accord sur quand elle dit que c'est la raison pour laquelle il y a moins d'enfants. Je pense que globalement, il y a une tendance aujourd'hui dans nos sociétés à avoir de moins en moins, enfin pas tout le monde, mais le désir ou de plus en plus l'interrogation, le vrai questionnement de se dire est-ce que j'ai envie d'avoir une vie où je veux des enfants. Et je pense que là-dedans, il y a plein de causes. Il y a des causes très concrètes, matérielles. Je veux dire, aujourd'hui, la première chose qu'on se dit quand on veut un enfant, c'est le logement. Ça va être un cauchemar du point de vue de l'appart, surtout quand on est urbain. Mais il y a peut-être aussi des causes dans le rapport à l'avenir, dans le rapport à la transmission, dans le rapport à l'éternité, dans la baisse du religieux. Bref, je pense que c'est pas que ça qui explique le recul de la démographie.
Il est 22h52, passé de 36 secondes, chère Elisabeth Lévy. Il est l'heure de vous remercier, de vous proposer d'aller lire le livre d'Elisabeth Badinter, pourquoi pas.
Non, je vais regarder le match.
Il est fini, le match.
En replay, même moi, je sais que ça existe.
C'est le score. Le quel intérêt. Vous allez vous en servir du replay? Vous avez fait?
Ouais.
C'est
bon.
Ça, c'est le mauvais coup de fin de soirée.
Ouais, c'est vrai. Je vais vous demander pardon parce que ça peut finir au tribunal, cette affaire. Merci beaucoup à Jade Roger qui a préparé cette émission, Maxime Fer, Coralie Deleplace. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Pour Paris, ce sera l'année prochaine. On va dire ça comme ça. Merci et à demain pour Soir Info. L'édition de la nuit est à suivre.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.